Mesdames et messieurs, cet après-midi, nous allons considérer ensemble le sujet « Jésus et le Messie ». Il s'agit de la prophétie réalisée qui est, comme nous allons le voir, un sceau de Dieu sur la crédibilité de la Bible. N'est-ce pas? On peut se poser la question, Dieu est-il l'auteur de la Bible? Eh bien, la Bible nous l'explique bien. En 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». En 2 Pierre 1, verset 21, nous lisons « Car la prophétie de l'écriture n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. » Donc, la Bible, selon sa propre déclaration, n'est pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Mais bien sûr, là, comme agnostique, comme critique, on peut dire, oui, mais le papier accepte toutes sortes de déclarations. Mais nous allons voir que la prophétie réalisée de la Bible est vraiment un sceau de Dieu sur la Bible. Alors, nous pouvons nous poser la question, Dieu est-il l'auteur de la Bible? Voyez ici d'abord l'axe du temps. Voilà le passé, le présent et le futur. Il est clair, nous pouvons, en ce qui concerne le passé et le présent, faire des déclarations fiables ou assez fiables. Mais lorsqu'il s'agit des déclarations fiables sur le lointain avenir, l'homme échoue lamentablement parce que nous sommes des créatures liées à l'espace et au temps. Un exemple pour illustrer ce fait. Voilà, Exposition universelle de 1893 à Chicago. À l'époque, des spécialistes, donc des experts en sociologie, expliquèrent à ce moment comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard. Ils ont déclaré 1. Les hommes vivront jusqu'à 150 ans. Ensuite, les gouvernements seront de plus en plus simples parce que la vraie grandeur s'épanouit toujours dans le sens de la simplicité. 3. Les prisons seront inutiles. Et 4. Les divorces ne seront plus nécessaires. Cela, ils n'ont pas dit parce qu'ils en pensaient on ne va plus avoir le courage de se marier, mais ils ont cru l'homme se développe et il va être capable de résoudre des difficultés entre hommes et femmes. Donc, les divorces ne seront plus nécessaires. Alors, c'était des scientifiques. Voyez, la science et la prophétie, ça ne marche pas. Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et à l'espace. C'est que l'Écriture nous déclare. N'est-ce pas? En Apocalypse 1, verset 4, Dieu est mentionné comme celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est en quelque sorte une explication du nom hébreu de Dieu, Yahweh, qui veut dire « celui qui a l'être en soi », donc l'éternel. Et voilà, c'est pour ça, en Jérémie 23, 24, nous lisons « N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ?» dit l'éternel. Donc, Dieu est, selon la Bible, omniprésent, et en même temps, donc pas soumis à l'espace, et il est l'éternel. Yahweh, ce qui veut dire celui qui est éternellement l'immuable. C'est pour ça que dans les Bibles françaises, on a mis normalement l'éternel. 77 fois, 77 fois, on lit dans le livre du prophète Ézéchiel un refrain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, Yahweh. Donc, il y a une prophétie. Et à la fin de la prophétie, Dieu ajoute, lorsque ces choses vont se réaliser, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est un refrain avec des variations. Parfois c'est « Et ils sauront que je suis l'Éternel ». Il y a encore d'autres variations. J'ai compté toutes les variations ensemble, ça donnait 77 fois. Donc cela nous montre que la prophétie accomplie est vraiment un bon moyen pour montrer que l'Éternel est l'auteur de la Bible. Puisque lui seul est capable de dire avec une précision de 100% ce qui va venir, même dans l'avenir lointain. Ésaïe 41, 23. Déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. Ce verset s'adresse aux autres religions. Des peuples autour du peuple d'Israël qui connaissaient l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, voilà une sollicitation aux autres religions. Montrez-nous la vraie prophétie. Et cela va être la preuve que vraiment Dieu est derrière vos religions. Et on peut dire, la Bible est le seul livre au monde qui est capable de faire des déclarations absolument fiable et détaillé sur l'avenir. Et cela, on ne trouve pas chez les autres religions, comme dans le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, le taoïsme, etc. Et non plus dans la science moderne, comme nous venons de voir. Donc, cela nous montre l'importance de la prophétie accomplie. D'ailleurs, dans les religions en dehors de la Bible, du judaïsme et du christianisme, eh bien, là, on voit l'essai de faire des prophéties. Par exemple, dans l'histoire, il y a cette anecdote d'un roi qui est allé vers l'oracle de Delphi pour demander si c'est bien de faire telle et telle guerre. Et il a demandé comment ça va finir si je vais en guerre. Alors il a reçu la réponse, tu vas détruire un royaume. Il est allé faire la guerre et il a perdu. Il est revenu, n'est-ce pas? On n'accepte pas une telle prophétie comme ça. Il a dit, mais j'ai demandé et puis vous avez dit, tu vas détruire un royaume et maintenant j'ai perdu. Ils ont dit, mais on t'avait pas dit quel royaume tu vas détruire. Voilà, c'est une sorte de faire des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Nous allons considérer la prophétie messianique. N'est-ce pas? On pourrait aussi voir la prophétie sur l'avenir des nations. Par exemple, seulement dans le livre de Daniel, j'ai compté plus de 200 prophéties accomplies sur Babylone, Perse, Grèce, Rome, etc. On pourrait s'occuper des prophéties accomplies dans notre époque. Alors, on trouve en rapport avec le retour des Juifs depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, plus de 160 prophéties accomplies. Mais nous allons considérer cet après-midi la prophétie messianique. Jésus-Christ, par sa venue il y a 2000 ans, a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Le terme « le Messie » veut dire « le Sauveur promis » dans l'Ancien Testament. pour Israël et pour tous les peuples du monde. N'est-ce pas? L'Ancien Testament a été écrit dans l'espace de 1200 ans. C'est une collection de 39 livres rédigés au cours, comme j'ai dit, de 1200 ans. Voilà, il y a environ une trentaine d'écrivains, des rois, des hommes d'État, des bergers, musiciens, etc. Le premier qui a écrit des livres bibliques, c'était Moïse, à l'époque de la sortie d'Égypte, 1600 avant Jésus-Christ. Et le dernier écrivain était Malachi, le prophète, qui a vécu vers 400 avant Jésus-Christ. Et voilà, entre deux, tant de prophètes qui ont annoncé, depuis Moïse jusqu'à Malachi, la venue du Messie pour Israël et le monde entier. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire, oui, mais peut-être, ce n'est pas vrai que ces livres aient été écrits 400 ans ou même plus avant Jésus-Christ. Peut-être ce sont des écrits qu'on a écrits après la venue de Christ. Simplement, on a écrit comme si c'était de la prophétie. Aujourd'hui, on ne peut plus penser de telles critiques, car les manuscrits trouvés à Qumran, près de la mer Morte, sont un témoignage de manuscrits qui vont jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà des textes bibliques, donc déjà des copies. Des copies. Et avec ça, on peut absolument prouver, puisque c'est un témoignage en vue de l'ensemble de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était achevé bien avant la naissance de Jésus-Christ. En plus, l'existence de la traduction des Septante atteste également clairement l'Ancien Testament était achevé bien avant la naissance de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vers 280 avant Jésus-Christ, on a commencé à traduire l'Ancien Testament en langue grecque. Cette traduction est appelée la traduction des Septante. Un roi égyptien voulait, selon la tradition, avoir aussi une copie pour la bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, puisqu'il n'y a plus cette bibliothèque de l'Antiquité. J'ai pris une photo en Alexandrie de la bibliothèque universitaire. Alors, l'existence de cette traduction qui date avant l'ère chrétienne ne permet pas que le texte hébreu, l'original, soit écrit seulement après la venue de Jésus-Christ, puisqu'on a déjà une traduction qui est plus vieille. L'Ancien Testament parle de deux façons du Messie promis. On a beaucoup de passages qui parlent du Messie souffrant, qui va venir et qui va être rejeté par la masse de son peuple, mais qui va mourir comme un sacrifice, le juste pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et d'autres passages parlent du Messie régnant, du Messie triomphant, qui va venir comme juge du monde et va introduire la justice de Dieu dans ce monde de chaos. Voilà, ces deux descriptions s'expliquent, comme j'ai déjà expliqué hier soir, par les deux apparitions du Messie. Une première fois, il devrait venir comme le Messie souffrant, et longtemps plus tard, à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Christ, il va venir comme le Messie régnant. Et on peut distinguer déjà dans l'Ancien Testament ces deux apparitions par le fait que les prophètes ont annoncé après la venue du Messie souffrant qui sera rejeté par la masse de son peuple, le peuple juif sera arraché de dessus sa terre et dispersé parmi toutes les nations du monde. Ce qui s'est réalisé, comme j'ai montré hier soir, depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Mais en rapport avec le Messie régnant, déjà les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du retour des Juifs après cette longue période de dispersion. Ils vont retourner dans l'époque juste avant la venue du Messie régnant. Et puisque nous vivons dans cette époque où les Juifs retournent au pays des ancêtres, 3 millions depuis 1882, de tous les 5 continents, alors on peut dire nous sommes dans les derniers jours. Pas à la fin du monde, mais à la fin du temps, à la fin de cette grande période entre la première et la deuxième venue. Mais on s'est occupé hier soir de ce sujet des derniers jours en rapport avec le retour dramatique des Juifs. Et maintenant, nous allons considérer la venue, la première venue, le Messie souffrant. Eh bien, nous allons considérer 50 prophéties accomplies de ces plus de 300 prophéties. La première prophétie, c'est la naissance à Bethléem. Michée 5, verset 2, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » Eh bien, il est clair, il était clair déjà dans l'Antiquité pour les Juifs que ce passage ici parle de la naissance du Messie. Par exemple, dans la traduction araméenne des grands rabbins d'autrefois, on appelle ça le Targum. Dans le Targum, de ce verset, il est même encore introduit le terme Meshicha, le Messie. Ce qui rend clair que dans le judaïsme, on a bien compris, ce verset parle du Messie. D'ailleurs, si des Juifs orthodoxes encore aujourd'hui attendent la venue du Messie, ça pose un problème, puisque Bethléem, ce n'est absolument pas une ville juive aujourd'hui. C'est une ville sous la domination des Palestiniens. Et le Messie devrait être né à Bethléem. Il est déjà né il y a 2000 ans à Bethléem. Voilà Matthieu, un juif du 1er siècle, écrit dans le chapitre 2 de son livre. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui même un manuscrit de Matthieu qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, inutile pour les critiques de vouloir dire « Oui, l'évangile de Matthieu, ce n'est pas de Matthieu, ça a été écrit plus tard. » Non, on a donc une bonne référence à l'authenticité de l'évangile de Matthieu. Et là, nous lisons au chapitre 2, « Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ?» Il faut que j'explique encore, si on utilise ici le témoignage du Nouveau Testament comme référence de l'accomplissement. Le Nouveau Testament a été rédigé entre 30 et 98 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons à peu près 5700 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est un chiffre fantastique, parce que pour des auteurs de l'Antiquité, des auteurs romains et grecs, c'est bien d'avoir, disons, une dizaine de manuscrits d'un écrit de Jules César ou de Platon, etc. Mais pour le Nouveau Testament, 5700 manuscrits grecs, n'est-ce pas, lorsque nous avons lu à l'école des lettres de Cicéron, Aucun élève avait des doutes qu'on lit vraiment du Cicéron lorsqu'on a discuté du Nouveau Testament. C'est tout à fait différent. Mais voyez, donc pour les textes antiques des Romains et des Grecs, on se met sur une base très petite, mais pour le Nouveau Testament, c'est absolument le contraire. C'est un phénomène. En plus, par exemple, le manuscrit appelé P46, c'est un ensemble des épîtres de Paul, épîtres aux Hébreux inclus. Ce manuscrit a été daté il y a quelques années, soigneusement, par un Coréen, savant coréen, il s'appelle Kim, et il a dû conclure: ce manuscrit a été écrit entre 75 et 100 après Jésus-Christ. Donc, avec une bonne part du Nouveau Testament, du 1er siècle. Alors, avec ça, on peut montrer toutes ces pensées. Le Nouveau Testament a été rédigé au 4e siècle. Et impossible. C'était la même Bible. Comme après. En plus, il faut considérer ce fait-là. Les évangiles, l'évangile de Matthieu, mais bien sûr aussi de Jean, de Luc et de Marc, étaient des écrits publiés à l'époque où il y avait encore les témoins oculaires. Ennemis et amis, n'est-ce pas, les deux. Mais en général, des écrits publiés, c'est quelque chose de dangereux pour une religion ou pour une croyance. C'est une zone d'attaque pour l'adversaire. Si quelque chose avait été historiquement inexact dans le Nouveau Testament, on aurait pu attaquer le christianisme sur ce point. Mais le combat fut persécution physique. Vous pouvez voir dans le Talmud, dans les écrits rabbiniques de l'Antiquité, on n'argumente jamais contre le christianisme. Nous savons exactement que Jésus n'était pas né à Bethléem, mais à tel tel endroit. Jamais vous trouvez ces arguments-là. Même lorsqu'il s'agit des miracles, il nie pas la réalité des miracles. C'est plutôt la question d'où venait la force des miracles. Mais les miracles, comme tels, n'étaient pas mis en question. Ça, c'est un argument très important pour voir que ces écrits tiennent comme des témoignages crédibles. À l'an 135 après Jésus-Christ, c'était après que le César Adrien a abattu la deuxième révolte des Juifs. Alors, le César de Rome, pour offenser les Juifs messianiques, il a profané le lieu de naissance de Christ en y construisant un temple pour Adonis. D'ailleurs, à Jérusalem, là où il y avait le lieu très saint du temple juif, là il a mis un temple pour Jupiter, pour offenser tout le peuple juif, aussi les juifs non messianiques, etc. Mais 330 après Jésus-Christ, l'église de la Nativité a été construite sur l'endroit de ce temple d'Adrien par l'empereur Constantin. Et au VIe siècle, on avait fait une reconstruction par l'empereur Justinien I. Vous la voyez ici, cette église de la Nativité à Bethléem. Mais je montre ces fêtes-là simplement pour montrer. Vers 135, les Juifs messianiques savaient encore où était cette caverne de bergers à Bethléem où Jésus-Christ est né. Et cela veut dire qu'encore aujourd'hui, le lieu exact à Bethléem est connu. Deuxième prophétie. Fils du roi David. En Jérémie 23, verset 5, nous lisons « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera et exercera le jugement et la justice dans le pays. » Eh bien, ici, il est question du Messie régnant. Mais puisque le Messie souffrant, le Messie régnant, c'est la même personne, il est clair que le Messie devrait être, en tout cas, un descendant du roi David. Eh bien, en Luc 3, nous trouvons encore la généalogie de Marie, qui passe de son père en arrière jusqu'au roi de David. Donc Marie était donc une petite fille de David. En Matthieu 1, on trouve la généalogie de Joseph, qui remonte aussi finalement vers David, mais c'est la ligne royale par Salomon. Mais Marie est descendue par un frère de Salomon, par Nathan, aussi un fils de David. Et voilà, puisque Joseph a marié Marie, par ce fait, Jésus-Christ étant un fils de David, dans le sens biologique, par Marie, il a reçu légalement le droit à la généalogie royale de Joseph, et cela lui transmet donc le droit d'être roi sur le trône de David. Et il faut savoir, jusqu'à l'an 70, c'était normal qu'en principe chaque juif avait sa généalogie à Jérusalem, dans un archive. Donc en général, chacun pouvait exactement prouver, sans faire un test DNA, de quelle ligne il était, de quelle tribu, de quelle famille, etc. Alors, lorsque Jésus-Christ est devenu connu dans le pays, on a tout de suite, comme c'était normal, contrôlé aussi sa généalogie. Et c'était clair, il était un descendant de David. C'est pour ça que les gens l'ont appelé dans les évangiles à plusieurs reprises. Il est constaté, les gens l'appellent fils de David, Ben David. Mais à l'an 70, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et le temple, cet archive a été brûlé. C'est pour ça, normalement, aujourd'hui, un juif ne peut plus donner avec précision sa descendance. Il y a des exceptions. Il y a encore même des familles qui avaient une tradition familiale, qui savent qu'ils sont encore de la maison de David. Ça existe. Et les juifs qui portent le nom de Cohen, sacrificateur, savent qu'ils sont de la ligne d'Aaron. Mais en général, personne ne peut montrer vraiment la ligne exacte. Mais jusqu'à l'an 70, c'était possible, et c'est pour ça, ça a été publié aussi par l'Évangile de Luc, Jésus-Christ est un fils du roi David. Trois, son précurseur. Voilà, en Malachie 3, verset 1, on entend la voix du Messie. « Voici, j'envoie mon messager. » Et il préparera le chemin devant moi. En Isaïe 40, verset 3, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Eh bien, l'apparition de Jean le baptiseur fit sensation en Israël, il y a 2000 ans. Elle mit tout le peuple d'Israël en mouvement. Et nous avons un témoignage, pas seulement de la Bible, en Matthieu 3, Marc 1, Luc 3, Jean 1, mais aussi extra-biblique par Joseph Flave dans son livre « Antiquité judaïque ». Il parle de Jean le baptiseur. Et Joseph Flave, c'était un juif, un historien juif du 1er siècle, qui était d'ailleurs sacrificateur à Jérusalem à l'époque. Et voilà, il dit que tout le peuple d'Israël a été bouleversé par cet homme. Et c'était Jean Baptiseur qui a introduit et annoncé Jésus-Christ comme le Messie promis. 4. Début au lac de Génézareth. En Ésaïe 9, verset 1er, nous lisons « Toutefois, l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre, quand en commencement il pesa légèrement sur le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Et plus tard, s'apesantit sur elle, etc. Chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. » Ce passage parle du Messie qui va faire luire sa lumière d'abord dans cette région méprise au nord, dans la Galilée. Et effectivement, Matthieu 4 nous le montre, Jésus-Christ a commencé à déclarer la bonne nouvelle, non pas à Jérusalem, capitale des Juifs, ou dans un autre endroit en Judée, mais justement au nord mépris. Et il a commencé à prêcher depuis Capernaüm, au nord du lac de Génézareth. Eh bien, c'était une surprise, n'est-ce pas? Humainement parlé, on s'attend plutôt que le Messie va venir et se révéler à Jérusalem. Non, il a commencé là, vers le lac de Génézareth, à Capernaüm, qui se trouve dans le territoire de la tribu de Naphtali. N'est-ce pas? Le pays de Zaboulon et le pays de Naphtali. Nazareth se trouve dans le territoire de Zaboulon. Et Zaboulon veut dire, en fait, habitation. C'est là où Jésus-Christ a habité pendant la plus grande période de sa vie. Et Naphtali veut dire « mon combat ». C'est là où Jésus-Christ a commencé son service public de 3 ans. Un combat. Prophétie 5, bonne nouvelle. Ésaïe 61, verset 1er. Le Messie parle par le prophète. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. » Donc le Messie devait apporter un message de consolation. Voyez ici la synagogue de Capernaüm, dont les fondements, en pierre noire, datent du 1er siècle. C'est la synagogue mentionnée dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a prêché. C'est là où il a commencé à Capernaüm à apporter ce message de consolation. Et d'ailleurs, Capernaüm, en hébreu Kfar Nahum, veut dire le village de la consolation. Ensuite, guérison miraculeuse. Ésaïe 35, verset 4. « Voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. » Voilà le témoignage dans les 4 évangiles des miracles du Seigneur Jésus. Des miracles toujours parfaits. Donc Jésus-Christ n'a pas guéri et après quelques temps, les gens étaient de nouveau malades ou c'était seulement par enthousiasme une soirée. Non, 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 non. C'était des vrais miracles. Et dans le Talmud, traité Sanhédrin, 43, page 1, alors c'est avoué que Jésus-Christ a commis des miracles. Mais là, les ennemis disent il a fait de la magie. Donc, il aurait fait les miracles par l'aide de Satan. Mais c'est exactement ce que vous lisez aussi en Matthieu 12, où les pharisiens s'opposent au miracle du Seigneur Jésus, tout en sachant que ça vient de Dieu, ils disent, ça vient de Belzéboub, le prince des démons, le Satan. Dans le livre Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, 69, alors là, il y a aussi une discussion avec un juif non-croyant, mais il ne met pas en question les miracles. Ou on trouve encore un témoignage chez Origène contre Kelsum, 1:28, également on voit que dans le judaïsme, ce n'était pas le fait des miracles qui était mis en question. Cette visite au temple. En Malachie 3, verset 1er, nous lisons « Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, dit l'Éternel des armées. » Donc on savait, à l'époque de Malachie, période du deuxième temple, le Messie va venir et il va venir soudain à son temple. Le problème pour les Juifs orthodoxes depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est le suivant. Depuis l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus de temple jusqu'à aujourd'hui. Donc le Messie devait apparaître avant 70 après Jésus-Christ. En tout cas pas dans la période de 70 jusqu'à 2010. Parce qu'il ne pourrait pas venir vers le temple. Et Jésus-Christ est venu quelques années avant la destruction du deuxième temple, 70 après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ alla régulièrement au temple. Et la première fois, il a été amené un peu plus qu'un mois après la naissance, où Marie a dû apporter un sacrifice pour soi-même, un sacrifice de purification après l'enfantement. Et voilà, là, la première fois, le Messie est soudain venu au temple. 8. Entrée à Jérusalem. Zacharie 9, verset 9 dit « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. » Eh bien, Matthieu 21, et dans les passages parallèles des évangiles, on trouve la description de cette journée des rameaux. Donc, quelques jours avant la crucifixion, Jésus-Christ est entré depuis le mont des Oliviers à Jérusalem sur un âne. Et le peuple, la masse, l'a salué avec le verset pris du psaume 118 qui était là justement pour saluer le Messie à sa venue. Baruch haba b'shem Adonai, ce qui veut dire bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. Neuf, le moment exact. Cette entrée à Jérusalem ne pouvait pas avoir lieu n'importe quand. En Daniel 9, 25, nous lisons « Et sache et comprends. » Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines d'année et 62 semaines d'année. Je dois expliquer, à l'époque de Daniel 9, Jérusalem était une ruine, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, le prophète doit apprendre, depuis la sortie d'un décret pour pouvoir rétablir Jérusalem, on peut commencer à calculer les jours. Jusqu'au Messie, qui va venir comme prince. D'ailleurs, Jésus-Christ est seulement venu une fois dans sa vie comme un prince. C'était lorsqu'il est entré sur l'âne à Jérusalem. Alors, entre ces deux moments, décret pour rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 et 62, ça fait 69 semaines d'année. Eh bien, Je dois expliquer. Une semaine d'année, en hébreu Shavua, c'est une unité de 7 années. Et les années prophétiques dans la Bible sont toujours des années de 360 jours. N'est-ce pas, le calendrier juif depuis l'Antiquité est une combinaison de l'année lunaire. Les mois sont des mois lunaires qui commencent avec la première apparition de la lune. Mais le calendrier des fêtes est lié à l'année d'agriculture. Donc, c'était une mixture de l'année lunaire et l'année solaire. Et qu'est-ce qui est au milieu de ces deux années? C'est 360. Donc, les années prophétiques, 360 jours. Alors, on peut calculer les 69 semaines d'année ainsi. 69 fois 7 fois 360 jours, cela fait 173 880 jours. Et nous savons le moment où un roi perse, Artaxerxès, avait donné la permission pour reconstruire Jérusalem. C'était à l'an 445 avant Jésus-Christ. C'est décrit en Néhémie 2. Même le mois est mentionné. Nissan, c'est mars-avril dans notre calendrier. Et nous savons, quand Jésus-Christ est entré comme roi à Jérusalem, c'était aussi au mois de Nissan, le mois de la Pâque, n'est-ce pas? Mars-avril, mais 32 après Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il est dit en Luc 3 que Jésus-Christ a commencé son service public en la 15e année de l'empereur Tibère. Et vous pouvez voir dans un lexique, Tibère a commencé à régner 14 après Jésus-Christ. 14 et 15, 29. Le service public de Jésus-Christ a duré 3 ans, selon Luc 13, 6 à 9. Ça nous apporte à l'an 32. Et vous pouvez exactement placer entre ces deux dates les 173 880 jours. Jésus est le Messie. Et nous pouvons le prouver. Ainsi, on comprend comment on peut dire, en acte 9, il est dit que Paul, il a prouvé aux Juifs que Jésus est le Messie. Apollos, en acte 18, il a prouvé aux Juifs à Corinthe que Jésus est le Messie. Et deux fois, le terme « prouvé » est utilisé. 10. Rejet du Messie. Ésaïe 53, verset 3. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Et il faut que j'ajoute que dans la littérature rabbinique, on a tant de témoignages que les rabbins de l'Antiquité ont compris que Ésaïe 53 parle du Messie. Donc ce n'est pas une interprétation des chrétiens après les événements, mais dans le judaïsme, c'était clair, Ésaïe 53 parle du Messie. En Ésaïe 49, verset 7, il est même dit, « Ainsi dit l'Éternel à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre. » Le Messie rejeté. N'est-ce pas? Ce n'est pas une prophétie qu'on aurait pu écrire parce qu'il y a une certaine chance que le peuple d'Israël va rejeter le Messie lorsqu'il va venir. Non, au contraire, le Messie, c'était l'espérance d'Israël. On s'attendait que le Messie vienne. Alors là, il est venu. Il a été rejeté par la masse. Voilà, c'était prophétisé. Mais cela allait contre tout calcul intellectuel, n'est-ce pas? 11. Transfert pour la condamnation. Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert sa bouche. » Voilà, on a pris Jésus-Christ à Gethsémané, vers la montagne des Oliviers, et ensuite, finalement, il a été amené au portique royal, siège du Sanhédrin, la cour suprême d'Israël, qui se trouvait exactement ici, à cet emplacement. Là, dans ce coin, Jésus-Christ a été condamné par le souverain sacrificateur Caïphe. Mais Jésus-Christ n'a pas résisté. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Il a arrêté à donner des arguments. Et même lorsqu'on a avancé des faux témoignages, le Seigneur n'a plus rien dit. Et ainsi, il a littéralement accompli Ésaïe 53. Psaume 35, verset 11, le Messie parle prophétiquement. « Des témoins violents se lèvent. Ils m'ont rendu le mal pour le bien. » Et vous pouvez voir la description du procès de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Donc, d'un témoin oculaire du premier siècle. Et voilà, il y avait des faux témoins qui ont avancé des faux témoignages contre Jésus-Christ. 13. Mauvais traitement. Ésaïe 50, verset 6, décrit ce qui s'est passé devant Pilate, pense Pilate. « J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient le poil. Je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. » Vers la porte de Jaffa, aujourd'hui, c'était le siège de Ponce Pilate. Et là, Jésus-Christ a été traité de cette façon. Après que la Cour suprême des Juifs, qui n'avait plus le droit pour tuer un criminel, ils ont envoyé Jésus-Christ aux Romains pour qu'il soit crucifié par eux. Ésaïe 52, 14. « Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. » Cela décrit exactement le traitement des Romains. Et dans détail, c'est expliqué en Matthieu 27, Marc 14, Luc 23, Jean 19. Et l'apparence de Jésus-Christ n'était plus humaine. Psaume 129, verset 3, « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long sillon. » N'est-ce pas? Les évangiles expliquent comme Ponce Pilate a laissé battre Jésus-Christ. Mais lorsqu'on sait comment les Romains ont fait cela, alors on réalise que ce traitement souvent a tout de suite mené à la mort, avant la crucifixion. Et ici, vous voyez un esclave battu en Amérique. Vous voyez ce dos? Ça explique exactement le verset du psaume. « Des laboureurs ont labouré mon dos. » Ils y ont tracé leur long sillon. Terrible. 14. Crucifiement du Messie. Dans le psaume 22, nous avons un témoignage du roi David de la mort du Messie, écrit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. David ne décrit pas ses propres expériences. Mais il décrit comme prophète la mort de son descendant, le Messie. Psaume 22, verset 16. « Une assemblée de méchants m'a entouré, Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. » Eh bien, le crucifiement avec des clous était inconnu à l'époque de David. Seulement des siècles plus tard, on trouve ça en Perse, ensuite chez les Grecs, et eux, les Grecs, l'ont transmis aux Romains. Mais c'est déjà décrit prophétiquement par David. 15. Dénudation. Bien sûr, en Israël, c'était une dénudation limitée, parce que les Juifs orthodoxes n'auraient jamais accepté une dénudation complète. Mais en psaume 22, verset 16, nous lisons « Une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. » Alors, si vous portez une chemise, n'est-ce pas, on ne peut pas compter tous les os. Mais le Seigneur dit « Je compterai tous mes os. » 16. Articulation déjointe. Aujourd'hui, on peut bien expliquer que, comme suite d'une crucifixion, ça a comme conséquence que les articulations sont déjointes. Eh bien, dans le psaume 22, 14, nous lisons « Je suis répandu comme de l'eau et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fendu au-dedans de mes entrailles. » Donc, les articulations se luxaient sous le propre poids du crucifié. 17. Sueur. Je suis répandu comme de l'eau. N'est-ce pas, la chaleur du soleil d'Orient faisait ruisseler la sueur du crucifié. Aussi une conséquence de tous ces tourments corporels. 18. Soif des crucifiés. On peut expliquer par la médecine moderne pourquoi, dans de telles circonstances de douleur, on ressent une soif terrible. Mais sous le soleil oriental, encore plus, et le psaume 22, 15 dit: ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. 19. Drogue pour atténuer les douleurs. Dans le psaume prophétique 69, 21, le Messie dit: ils ont mis du poison dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Eh bien, parfois, les soldats romains, par compassion, ils ont donné aux crucifiés à boire, mélangé avec des drogues, pour justement atténuer les douleurs. Et dans Matthieu 27, on lit de ce fait que les soldats ont voulu donner quelque chose à Jésus-Christ, et lorsqu'il a senti qu'il y a quelque chose dedans, il n'a pas pris. Jésus-Christ voulait être le sacrifice, l'agneau de Dieu, et voulait porter le jugement de Dieu sur nos péchés sans une aide pour atténuer les douleurs. Et vous voyez, le psaume ne dit pas qu'il aurait pris cela, seulement ils ont mis du poison dans ma nourriture. Mais ensuite, il est dit: « Et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Eh bien, 20, « Vinaigre pour étancher la soif. » Et voilà, les évangiles en témoignent que lorsque les soldats ont donné du vinaigre, donc mélangé avec l'eau, c'était le boisson préféré par les soldats, je ne peux pas comprendre, mais oui, parce que ça aide beaucoup contre la soif. Lorsqu'ils ont donné simplement du vinaigre, sans la drogue, Jésus-Christ a pris. Et de ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre.